rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? C'est parfaitement prêt.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu si vous nous rejoignez. Nous sommes partis jusqu'à 20h pour un petit Canu Info avec au micro noir Laurent pour cette année 2018. Et bonsoir à tous et à toutes. Donc nous allons peut-être déjà nous excuser pour notre absence du dernier jeudi de 2017. Nous avions promis d'être là. Et nous ne sommes pas venus, alors nous sommes absolument désolés pour ceux que nous avons laissé désœuvrer, hein, puisque nous avons eu un petit retour, nous disons que quand même c'était pas bien. On s'excuse. Ce soir, nous allons parler d'attaque, un petit peu, puisque vous savez qu'attaque est attaquée, justement. Nous reviendrons sur les profiteurs avec cette semaine Lactalis, nous reviendrons très rapidement. Nous parlerons de la vie en Macronie, hein, parce que nous avons quand même eu des vœux absolument magnifiques.
Exactement, plein de messages, mais pas d'amour.
Non, nous on vous en souhaite, hein, de l'amour, bien évidemment. Nous reviendrons un petit peu sur les deux Corées, nous parlerons des migrants et des problèmes, parce que ici en France, ils en ont, mais ailleurs aussi. C'est malheureusement un peu pareil partout dans le monde, on ne veut pas des migrants et des migrantes, hein, autant les foutre dehors. Nous allons aussi vous parler, excusez-moi, j'hésite, de la Bulgarie, du Venezuela. Laurent va nous faire un sujet sur l'humour turc. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler, mais j'avoue que dans le déroulé, ça m'a un petit peu de surprise.
J'ai entendu une blague, donc je vais la faire.
Ah bon, je m'attends pire. Je ne sais pas comment dire. Nous parlerons peut-être de l'Inde, si nous avons le temps, et nous parlerons surtout de nucléaire, parce que nucléaire, mon amour, toujours en 2018. Et on commence donc tout de suite avec Attaque.
Oui, l'association, on va dire, citoyenne, Attaque est la cible de deux attaques. Donc là, ils méritent bien leur nom. De deux attaques judiciaires de la part de multinationales que l'on ne respectera pas, bien évidemment. C'est lors des différentes actions d'Attaque qui accusent ces deux multinationales, qui accusent avec des preuves de favoriser l'évasion fiscale. Ainsi, on va parler de la première, c'est Apple, bien évidemment, qui a assigné en référé l'association auprès du tribunal de grande instance de Paris suite à l'occupation du magasin de Paris Opéra. Attaque avait mené une série d'actions début décembre. contre le géant américain et maître de l'évasion fiscale, en tout cas en Europe, et j'ai l'impression que c'est ailleurs dans le monde, c'est un peu pareil. Quelques exemples, hein, le 3 novembre par exemple, c'était le jour de la sortie, c'était plutôt début novembre d'ailleurs, le 3 novembre c'était le jour de la sortie du dernier smartphone super génial qu'il faut absolument posséder mais qui coûte une blinde, qui s'appelle l'iPhone 10. Donc des militants d'attaque avaient devant le magasin d'Aix en Provence déversé des pommes pourries, ils n'avaient pas déversé des vraies pommes mangeables, hein, sur le trottoir, ils avaient écrit iPhone Revolt, avec le dièse devant, on dit hashtag, il paraît dans le monde moderne anglophone. Et donc ça c'était Aix-en-Provence. Il y a eu d'autres actions, alors justement dans le quartier de l'Opéra à Paris, avec un gros gâteau d'anniversaire fictif pour souhaiter un bon anniversaire à l'iPhone et un mauvais anniversaire à l'évasion fiscale, avec c'est pareil sur le des petites affichettes collées sur le magasin Apple avec donc hashtag Apple paye tes impôts. La veille ils avaient déjà occupé le magasin de Paris Opéra. Enfin voilà, il y a eu différentes actions comme ça contre le géant américain des smartphones. Pour dénoncer l'évasion fiscale. On rappelle que cette dénonciation elle repose sur pas mal de faits qui sont sortis dans la presse, hein, qui sont donc étayés sur les méthodes souvent légales, voire presque à la limite de la légalité que met en œuvre Apple, comme beaucoup de multinationales, pour ne pas payer d'impôts et donc enlever de l'argent aux citoyens des différents pays dans lesquels ils sont implantés. Donc, suite à ces actions, Apple n'était pas très content. Ils avaient reçu les responsables d'attaque le 18 décembre en leur demandant d'arrêter ces actions-là. Et ils avaient trouvé une excuse, c'était pour des raisons de sécurité. On ne voyait pas en quoi la sécurité venait là. Mais aujourd'hui, quand on fait quelque chose qu'on veut dire non, il faut pas faire ça, il faut mettre le mot sécurité dedans, comme ça. Ils ont pas osé mettre, à cause de vous, il y aura des attentats terroristes. Hein, mais c'est ce qui est sous-entendu quand même, hein, dans les propos d'Apple. Et ça allait plus loin que ça. Donc, du coup, attaque... est poursuivi. Alors l'assignation elle remonte au 21 décembre, on l'apprend qu'aujourd'hui par le communiqué d'attaque. Donc selon Apple, ils disent, je cite, le risque imminent pour Apple, ses employés et ses clients que feraient courir donc les actions d'attaque. Et je cite la déclaration d'Apple, attaque menace de réitérer ses actions. Ça c'est normal, qui ont déjà causé un préjudice à Apple et qui aboutiront à vandaliser les magasins exploités par Apple, à mettre en péril la sécurité de ses employés et de ses clients et à causer un préjudice commercial à Apple. Bon, je veux bien, préjudice commercial, c'est le but. Hein, Apple triche plus ou moins, en tout cas fait de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale. Donc les militants dénoncent ça et c'est la liberté aussi de dénoncer ce genre de choses et on peut le faire devant un magasin Apple. Et alors certes, ça fait de la contre-pub à Apple. Bah oui, bah, faut dire que l'imbécile qui achète la marque à la pomme croquée, il pourrait réfléchir à deux fois et se dire je vais peut-être acheter à quelqu'un qui fait pas de l'évasion fiscale. Bon, je lui souhaite bien du courage parce qu'ils sont un peu tous pareils dans le monde, dans ce milieu-là. Mais bon, quand même, on peut réfléchir. Il y a des marques qui en font un petit peu moins que d'autres. Apple étant quand même champion d'Europe quasiment de l'évasion fiscale. Donc voilà, ça paraissait logique. Donc Apple, ils disent que ça met en danger la sécurité des salariés, des clients. Bon, on connaît les militants d'attaque, hein, ils n'arrivent pas cagouler avec des kalachnikovs, hein, ils doivent confondre en fait, je pense qu'Apple, ils les ont pas vus, ils ont confondu avec ce qui est arrivé le 13 novembre, là, il y a un an, je pense que c'est ça, hein, parce que je vois pas en quoi, pour avoir vu plein de militants d'attaque faire des choses, j'ai jamais eu peur moi, donc je me dis qu'ils se trompent un peu Apple. Enfin, ils se trompent, ils ont quand même demandé au tribunal de grande instance d'interdire donc à l'association de pénétrer dans les magasins français. Alors, je sais pas comment ils vont faire, ils vont demander les adhérents de l'association et demander les cartes d'identité avant de rentrer, là. Ils en sont capables, hein, vu le côté liberticide de chez Apple. Pendant 3 ans, sous peine d'une astreinte de 150 000 € par violation de l'interdiction. Alors, c'est ce qu'ils demandent. On espère que le tribunal ne suivra pas tout ça. On rappelle quand même que les actions d'attaque sont des actions qui sont symboliques, qui sont non violentes, qui sont menées à visage découvert par les militants d'attaque qui assument totalement ce qu'ils font et ils ne dégradent pas. Alors bon, ils ont posé une affichette collée sur la vitre, ça s'enlève sans problème, donc ils dégradent pas. Donc les poursuites d'Apple sont malvenues mais sont logiques hein, dans le cadre de la multinationale et de son image de marque qui en prend un coup parce que oui, ils sont fait prendre en train de pas payer les impôts. Donc ça, c'est clair. Et alors ça, c'est la première attaque, contre-attaque. La deuxième attaque, contre-attaque, c'est la BNP. Alors il y a déjà eu des actions de la BNP Paribas. On vous rappelle, c'est l'action de la réquisition symbolique des chaises. Alors les militants d'attaque rentrent dans la banque et sortent avec les chaises de la banque et voilà, ils réquisitionnent des chèques, des chaises au nom pour dénoncer les pratiques fiscales de BNP Paribas qui permet à beaucoup d'entreprises et de multinationales d'échapper à l'impôt ou de diminuer leurs impôts. Donc c'est, ils participent, ils collaborent à ce vol, hein, parce que ne pas payer des impôts, c'est du vol. Ça vole de l'argent à l'État, c'est-à-dire aux citoyens, donc au système de santé, de l'éducation et tout ça. Donc BNP Paribas contribue à ça, collabore, voire plus que collabore, elle participe puisqu'elle sollicite même les entreprises pour faire de l'optimisation fiscale. Donc il y a une militante qui s'appelle Nicole Briand qui est donc convoquée au tribunal de Carpentras le 6 février à 8h30. Alors il y a déjà eu des convocations, pour l'instant il n'y a pas eu de condamnation. On espère que ça va toujours aller dans le même sens pour les deux actions des deux multinationales qui sont hautement condamnables toutes les deux, qui ont même du sang sur les mains hein, pour Apple avec l'exploitation des différents matériaux qui composent leur smartphone et qu'ils ne vérifient pas ou vérifient mal. Hein, on a des actions, il y a eu pas mal d'enquêtes hein, sur ce qu'on peut retrouver dans les mines en Afrique, l'esclavagisme ou des choses comme ça, voire des actions encore plus violentes hein, de tabassage des salariés ou des gens qui essayent de récupérer les métaux qui vont ensuite constituer les puces des appareils d'Apple et d'autres d'ailleurs. Et BNP Paribas, je vous parle même pas. Si vous cherchez des infos dessus, je pense qu'ils ont. S'il y avait un tribunal pour condamner les entreprises pour crimes contre l'humanité, BNP Paribas serait sûrement poursuivi pour tout ce qu'ils ont pu financer ou empêcher de financer avec l'évasion fiscale, mais aussi en finançant des multinationales irrespectueux, en aidant des États irrespectueux, en propageant le nucléaire ou des choses qui attaquent les peuples indigènes en Amérique du Sud, par exemple. Enfin voilà, il y a moult choses contre BNP Paribas et contre pas mal de banques implantées à l'international. Donc voilà, petite info du jour sur attaque.
Oui, moi je pense quand même que Apple occupe l'espace médiatique aussi, puisque ça permet de ne pas trop parler, enfin en tout cas de tenter d'amoindrir les attaques sur l'obsolescence programmée de ces produits, hein, puisqu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau, ceux d'avant semblent plus aussi bien marcher.
Dire qu'il y a des mises à jour qui diminuent la qualité de fonctionnement des appareils. Ils sont quand même malins. Hein.
Ah, ça, c'est le capitalisme, c'est bien fait. Donc moi, je pense, j'ai un peu l'impression quand même que c'était aussi un moyen de pousser ça sur le côté, parce que ça, c'était quand même la semaine dernière et enfin sur les 15 derniers jours, assez fortement dans les médias. Là, bah du coup, ça permet de évidemment de parler un petit peu d'autre chose. Bon, je trouve que c'est pas mieux, en tout cas nous concernant, hein, comme sujet. Mais chez Apple, ils sont peut-être un peu bêtes.
Alors j'ai pas fini. Du coup, à la suite de ça, en ce début d'année, on va rappeler les chiffres. On devrait le faire une fois par an, comme ça, ça remettrait un petit peu les idées en place de tout le monde. On va comparer. La triche à la fraude fiscale donc faite par les riches et les entreprises à celle de la fraude sociale ces tricheurs prouvent que les gens de droite appellent les assistés. Alors je vais redonner quelques chiffres hein, sur la fraude. Donc la fraude sociale, c'est les pratiques illégales qui visent à percevoir des aides de façon illicite, des aides comme le RSA, comme les allocations logement non justifiées, mais aussi des arrêts de travail abusifs, de l'absentéisme abusif, des fraudes à l'assurance maladie, toutes ces choses-là. Alors, ce qui concerne le RSA, vous savez, c'est cet obole que l'État donne aux plus pauvres, hein, qui est vraiment une obole, hein, ça ne va pas plus loin que ça, hein, c'est difficile de vivre avec. La fraude est estimée à peu près à 100 millions d'euros. Grosso modo, sur l'ensemble des contribuables, c'est 23 centimes par mois, donc c'est pas beaucoup. Alors, il faut rappeler aussi que le RSA, il y a plein de gens qui ont droit, qui ne le demandent pas, et là, ça fait 6 milliards d'économies. Ah, bon, donc du coup, on peut encore tricher un moment, les voilà, ceux qui trichent peuvent encore tricher. 100 millions de triches, 6 milliards de gens qui le prennent pas alors qu'ils y ont droit. Bon, ça laisse un petit peu de marge. Alors, on peut faire comme ça un bilan. Les fraudes à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, c'est à peu près 276 millions, c'est le chiffre de 2015. Les chiffres à Pôle emploi, puisqu'il y a eu une grosse attaque contre les chômeurs qui tricheraient, qui seraient des fainéants. Grosso modo, Pôle emploi estime qu'il y a 14% des chômeurs qui ne cherchent pas activement, entre guillemets, du travail, ça coûte à peu près 60 millions d'euros. Bon, si on additionne toutes ces triches, en prenant très très large, il y a un économiste qui s'appelle Dominique Tian qui a sorti le chiffre, qui dit que ça coûte 4 milliards d'euros. Voilà. 4 milliards d'euros, c'est 9 euros par contribuable et par mois, hein, pour situer les choses. La Cour des comptes, eux, qui est un truc pas de gauche du tout, eux avaient estimé à 3 milliards d'euros la fraude sociale. Bon, voilà. Alors, les pauvres trichent, ça coûte 3 milliards d'euros. Bon, on rappelle que le RSA, qui n'est pas touché par les pauvres, c'est plus 6 milliards d'euros. Donc du coup, pour l'instant, la fraude est moins forte que ceux qui n'utilisent pas les aides sociales et qui ont droit. Et les riches maintenant? Bah les riches, c'est simple. La fraude fiscale, impôts et taxes, donc ça concerne les entreprises et ceux qui sont suffisamment riches pour payer des impôts et pour essayer de tricher sur les impôts, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an. C'est plus proche des 80 milliards d'euros. Bref, les pauvres, ils trichent, ça coûte 4 milliards d'euros. Les riches, ils trichent, ça coûte 80 milliards d'euros. Donc les plus gros parasites, les plus gros voleurs, les plus gros tricheurs sont bien sûr les riches et les entreprises. Et bizarrement, la majorité des actions mises en œuvre et l'investissement financier contre les tricheurs, elle se fait essentiellement sur les pauvres. C'est des choix politiques, c'est des gens de droite qui décident ça. Et on ne poursuit que très rarement, un petit peu de temps en temps, à la marge, les tricheurs riches. Par contre, dès qu'on fraude au RSA et qu'on se fait choper, on en prend plein la gueule. C'est un choix de société, un choix politique. Voilà, c'était pour rappeler ces chiffres en ce début 2018 et cette nouvelle année qui s'annonce difficile socialement. Voilà, c'est à toi, tu voulais parler d'un profiteur. Alors, on était dans les profiteurs aussi, du coup, Lactalis, qui est pas connu pour faire beaucoup d'évasion fiscale. Alors, peut-être qu'ils en font, mais on le sait pas. Mais ils sont plus connus pour d'autres trucs pas terribles.
Oui, lors des accords avec les producteurs, et puis les problèmes de lait infantile, on en avait parlé au mois de décembre. Donc j'aimerais d'abord vous poser une question. Qui a dit « J'ai une pensée pour les familles de victimes et j'ai une pensée pour les employés ?» Je vous aide, c'était ce matin sur une radio France Info.
C'est le directeur de...
Un ministre de l'agriculture et de l'alimentation, monsieur Stéphane Travert.
Ah oui, lui soutient Lactalis. Bah oui, c'est une multinationale française. Donc le ministre, il soutient la multinationale française.
C'est surtout que je sais que tu as toi aussi entendu ce ministre parler ce matin, et que comme moi, ça t'a fait rire quand les journalistes ont posé une question et que la première phrase de notre ministre de l'agriculture et de l'alimentation a été « J'ai une pensée pour les familles de victimes ».
Oui, au lieu de répondre à la question, on dit ça.
Voilà, déjà, on se dit « Oula, alors on va se faire traîner dans le rien hein, ». Tout ça pour vous dire que vous avez peut-être lu, je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir fait, le papier du Canard Enchaîné de cette semaine sur Lactalis. Le Canard Enchaîné nous apprend donc que Lactalis avait découvert de la salmonelle en août 2017.
Dans ce qu'ils appellent des autocontrôles, hein, puisqu'ils sont censés faire des autocontrôles. L'État s'est déchargé vachement du contrôle des entreprises en enlevant des fonctionnaires qui faisaient ces contrôles. Du coup, les entreprises ont une obligation d'autocontrôle et ils ont fait ces autocontrôles. Ils étaient positifs à la salmonelle. Et vraisemblablement, ils n'ont pas fait grand-chose.
Ah, ils n'ont pas fait grand-chose. Et puis deux, quand l'inspection vétérinaire est arrivée en septembre, elle n'a rien trouvé. Bizarrement. Alors, il paraît que, en fait, c'est pas les mêmes bâtiments qui ont été visités. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de concordance dans les tests. Bon, c'est quand même la même usine, hein, même si c'est très grand, évidemment, on vous a raconté, c'est le centre de production de lait infantile de Lactalis pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Donc, évidemment, c'est un centre énorme. Mais enfin, faut quand même pas se moquer de notre figure. Et je vous rappelle que c'est le scandale a éclaté début décembre. Donc, ça a mis du temps, hein, tout ça, quand même, à arriver jusqu'à nous. Finalement, a priori, chez l'inspection vétérinaire, on avait quand même pu être au courant de ce qu'avaient découvert les contrôles de Lactalis. Donc, on se demande comment, là, d'un seul coup, l'inspection vétérinaire n'est pas allée contrôler les mêmes bâtiments que Lactalis. Et alors là, on se dit qu'il y a quand même un trou béant dans lequel tout le monde est tombé. Est-ce pour arranger Lactalis? Ça, on ne le sait pas bien. En tout cas, le Canard Enchaîné raconte que l'usine tourne toujours, ce dont se défend Lactalis, qui assure que l'usine de Mayenne est à l'arrêt complet. Donc moi, j'attends les preuves du Canard Enchaîné pour nous expliquer qu'il y aurait une production de céréales qui serait toujours en cours dans cette usine. J'ai une tendance à bien vouloir croire le Canard Enchaîné, même si des fois, il se trompe.
Pourtant, Lactalis avait retiré aussi des paquets de céréales. Bizarrement, alors que ça n'avait pas été demandé d'ailleurs, ils avaient eu quand même des doutes.
Oui, c'est ça. C'est qu'on sent que Lactalis essaye un petit peu quand même de faire le ménage. Hein. On vous a raconté que l'usine avait été nettoyée de fond en comble. Pour le canard enchaîné, la salmonelle est toujours présente dans l'usine. A priori, Lactalis n'arriverait peut-être pas à s'en débarrasser, ce que d'autres médias aussi racontent. Je vous rappelle que l'usine est censée être arrêtée depuis le 8 décembre dernier, donc ça fait pratiquement un mois, hein, un petit peu moins, mais enfin, on est quand même pas loin. Donc là, il y a quand même un micmac dans lequel on n'a pas la main, c'est-à-dire que c'est pas très transparent, à la fois la position du ministère, la position évidemment des autorités publiques, avec l'inspection vétérinaire, la direction des fraudes, et puis de la part de Lactalis, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Je vous rappelle que il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte le 22 décembre dernier par le pôle santé publique du parquet de Paris. Il y a quand même 36 petits bébés qui ont été infectés par la salmonelle, mais ce qui veut dire qu'il y en a peut-être d'autres, parce que tous les enfants n'ont peut-être pas été déclarés comme étant malades à cause du lait infantile de Lactalis. Il y a donc une enquête préliminaire, et alors donc là, il y a qui est ouverte, c'est blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine et inexécution d'une procédure de retrait ou d'un rappel de produits d'origine animale ou de denrée en tenant préjudiciable à la santé. Donc ça fait quand même beaucoup d'attaques hein, contre Lactalis, qui, il faut le dire non plus, ne communique plus trop depuis. Les derniers communiqués pour expliquer aux parents comment trouver des produits de remplacement pour leurs enfants. Voilà, mais là on aimerait bien quand même en savoir un petit peu plus, et on espère que les enquêtes vont pouvoir un petit peu répondre à ce que pratique l'agroalimentaire actuellement. Et Lactalis est un symbole quand même de cet agroalimentaire.
Oui. Ma petite rubrique La vie en Macronie, aujourd'hui avec deux sujets. Le premier, c'est une bonne nouvelle, je trouve, même si elle est partiellement bonne seulement. C'est une promesse qui disparaît comme ça, corps et âme, celle d'Emmanuel Macron durant sa campagne d'un retour au service militaire obligatoire et universel. Donc généralisé aux personnes de tous les sexes, parce qu'on rappelle un service militaire auquel nous, on a tout fait pour échapper, hein, nous qui étions antimilitaristes, et c'était compliqué, était réservé aux hommes. Hein, les femmes, on se posait pas de questions de genre, et donc mais c'était homme ou femme, les hommes y avaient droit, les femmes heureusement y échappaient. Là l'idée c'était de refaire un service militaire pour tout le monde, hein, donc quelle que soit l'orientation sexuelle ou le sexe sur la carte d'identité, vous avez droit à cette belle propagande que l'armée c'est bien, l'armée ça sauve le monde, etc., etc., comme si l'armée n'était pas responsable des guerres. Hein. Et c'était porté aussi par Emmanuel, par Emmanuel Macron, alors qu'il voulait lui un mois, parce qu'il avait fait des calculs et que ça coûtait cher, parce que comment ça coûte vraiment cher un service militaire, il faut accueillir, vous imaginez, donc c'est on le fait à 18 ans ou après. Après les études, c'était comme ça à l'époque, pendant un an, ça coûtait une blinde à l'État, quoi. Alors certes, on manipulait les consciences, ça avait un rôle important quand même. Et puis bon, l'excuse de ça permettait de voir ceux qui savaient pas lire, etc. Ça c'est une excuse, bien évidemment. Donc lui, Emmanuel Macron, il avait calculé, il dit ça va coûter 15-20 milliards à mettre en œuvre, 2-3 milliards par an si on les garde qu'un mois. Donc on va rester là-dessus, hein, sinon ça va coûter trop cher. Bon, Mélenchon et son nationalisme débridé avaient, lui, proposé que ça revienne à la durée d'un an. Hein, quelle horreur. Lui, quand il était jeune, il avait fait l'armée a priori avec plaisir, il était donc pas vraiment de gauche, hein, parce que nous, les militants de gauche, on a tout fait pour échapper à ce truc-là. Donc c'est à rappeler que finalement, Mélenchon ne vient pas de la gauche, vraiment. Hein. Alors certes, il y a une partie de la gauche qui défend une armée comme ça, parce qu'il faut aller se battre, c'est l'armée du peuple, tout ça, mais ça nous fait bien rire. L'armée du peuple, elle est allée massacrer en Algérie, elle est allée massacrer en Indochine, elle est allée faire plein de choses qui sont super géniaux et qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu d'armée. Bon bref, or ces discours antimilitaristes, qu'on n'entend plus aujourd'hui, hein, ça a bien disparu ça, tristement disparu, l'idée de Macron qui semble sortir, qui sera confirmée en fait par un rapport que les députés doivent remettre fin janvier. Fin janvier, on aura plein de réponses. On aura une réponse sur ça, on aura une réponse sur Notre-Dame-des-Landes, on aura plein de réponses. Donc l'idée, c'est plutôt de banaliser une semaine au collège et une semaine au lycée autour de la défense et de la sécurité. Donc voilà, c'est ce qui est a priori prévu. Donc ça concernerait plus simplement les jeunes de 18 ans ou après les études comme à l'époque, mais tous les élèves finalement âgés entre 10 et 16 ans. Alors il y aurait plusieurs étapes. La première, il y aurait une semaine au collège consacrée à la défense et à la sécurité. Alors on rajoute aussi, mais aussi aux gestes qui sauvent, aux droits et devoirs et à la mémoire. Alors ça, c'est les excuses habituelles pour dire on va faire apprendre les mesures de sécurité pour voilà faire du bouche à bouche, tout ça, les formations que tout le monde devrait avoir régulièrement tout au long de sa vie, hein. Mais en fait, c'est l'excuse parce qu'on va surtout parler de la défense et de la sécurité. Si vous avez jamais assisté à un truc comme ça dans les collèges ou dans les lycées, vous avez une énorme propagande pro-armée, enfin un truc assez incroyable qu'on imagine plutôt dans les régimes dictatoriaux, mais en fait la République elle fait exactement la même chose sur l'armée, elle a la même idéologie très masculiniste d'ailleurs souvent. Alors même si on dit mais non, mais des femmes, mais en fait les femmes elles sont pareilles, elles sont un peu fortes avec des grosses kalachnikovs, c'est pas des kalachnikovs mais qu'à l'armée, mais voilà, il y a le même discours viriliste un peu puisque l'armée, c'est quand même le but, c'est d'aller faire la guerre. Sinon, c'est pas de sauver le monde, sinon on est médecin et infirmière. Hein. Et infirmier, ou... Voilà. Ça sera la première étape. On imagine bien comment ça se fait déjà un petit peu. La deuxième étape, elle aura lieu en seconde, avec une semaine d'immersion, alors ça, on va se marrer, pour favoriser la mixité sociale et les valeurs fraternelles. Alors là, on se demande ce que ça vient faire là. Et donc, il y aura une sorte de stage, comme en troisième, où les élèves doivent faire un stage d'une semaine, là, dans une entreprise. Et ben là, il faudrait qu'ils aillent faire une semaine de stage dans une association qui aide les personnes âgées ou les sans-abri. Vous imaginez le nombre de lycéens qui sont en seconde, s'ils arrivent à trouver autant d'associations qui peuvent les accueillir, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils sont complètement à côté de la plaque. Bon. Et après, il y aurait la délivrance d'un passeport citoyen, c'est la classe. Bref, c'est essentiellement une réformette pour dire on n'est pas arrivé parce que ça va coûter trop cher. C'est les bruits qui courent, c'est pas officiel encore. Ça va coûter trop cher même de remettre un service militaire pour tout le monde qui dure un mois. Donc on va, et il faut pas perdre l'objectif, c'est la propagande pro-nationaliste. L'État c'est bien, l'armée c'est bien, ça sauve le monde, c'est important de s'investir, etc. C'est fait pour ça, hein. C'était fait pour ça l'armée, c'est fait pour ça cette propagande. On la met de manière différente, ça va être fait par des profs et des volontaires du service civique, hein. Le service civique ça sert à tout en ce moment, et des enseignants. Alors je souhaite bien du courage aux enseignants, j'espère qu'on les obligera pas, bon, enfin il y a suffisamment d'enseignants collabos pour véhiculer la propagande militariste de l'État, que je m'inquiète pas non plus là-dessus. On sait que c'est, alors pour info, que c'est quand même déjà présent dans les programmes, d'ailleurs c'est assez atroce depuis la loi de 97 de réforme du service national, la culture de défense et de sécurité nationale, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est inscrit dans le socle commun des connaissances que les élèves doivent avoir en collège. Hein. Et d'ailleurs, pour surveiller le bac pro l'année dernière, il y avait un sujet, c'était en quoi l'armée peut aider la France en cas de catastrophe. Donc il y a une propagande permanente en fait de l'État sur le rôle positif de l'armée, et jamais, dans aucun des enseignements, on ne parle du rôle négatif de l'armée. Hein, on va montrer, regardez, il y a une catastrophe naturelle, l'armée intervient. On va pas raconter ce que l'armée française a fait au Rwanda, ce que l'armée française a fait en Algérie, ce que l'armée française a fait à plein d'endroits dans le monde. Voilà. Donc c'est une vision unilatérale et qui est vraiment triste, hein, qui est assez horrible. Alors ça, c'est la première réformette qui devrait arriver.
Je voulais faire une remarque. Tu nous disais qu'on allait envoyer les jeunes dans des assos pour aider les accompagner les SDF et puis
et les vieux.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc on va envoyer des jeunes qui sont pas formés. Et quand parle de formation, des bénévoles peuvent être formés.
Non, mais c'est pas. Ils vont pas faire quelque chose. C'est une durée d'une semaine. Donc c'est de l'observation, ça s'appelle.
C'est comme quand on. Sinon, j'allais dire quand même, on envoie auprès des pauvres et des oubliés, des jeunes qui connaîtront peut-être pas grand-chose et c'est quand même plutôt insultant.
Non, mais ils feront pas grand-chose. Et c'est vraiment de l'observation. Truc, hein, voilà.
D'accord.
Alors, deuxième vie en Macronie, la loi sur les fake news, puisque c'est de ça dont il est question depuis les vœux à la presse d'Emmanuel Macron qui ont eu lieu hier. Donc il est revenu, il a dit qu'il y aura un projet de loi déposé prochainement contre les fake news. Ça fait écho au bruit sur les campagnes de désinformation, notamment soi-disant faites par la Russie. Alors le problème, c'est que c'est très compliqué, les fake news, et qu'une seule loi, ça paraît difficile à encadrer ce genre de choses. On rappelle qu'il y a des individus qui créent et qui partagent des fausses informations sciemment à des fins politiques, hein, qui sont dans différents partis. Hein, on l'a vu, Fillon, le parti de Fillon a été particulièrement fort en fausses informations durant le début de la campagne, quand il a été très attaqué. Il y a aussi des individus qui créent et qui partagent de fausses informations de bonne foi, en croyant que c'est vrai. Du coup, c'est pas non plus la même chose. Il y a aussi les fausses informations économiques, là où on pousse, où il y a un but financier, elles sont importantes, celles-là. Le but, c'est de faire monter ou descendre les cours des actions pour qu'il y ait des gens qui s'enrichissent. C'est la forme certainement la plus efficace, hein, des fake news, et la plus importante. Et puis, il y a les fameuses puissances étrangères qui créent, qui partagent, qui sponsorisent des fausses informations. On pense à la Russie, mais en fait, pas mal de pays le font indirectement. Voilà, tout le monde joue un peu à ce jeu-là. Donc on se dit, bah attends, il veut faire une loi sur comme ça, sur des choses qui sont quand même très différentes les unes des autres. Alors il explique, hein, en fait, Macron, qui veut avant tout responsabiliser les plateformes et les diffuseurs sur Internet. Alors on n'a pas le contenu précis du projet encore de loi, il a fait que l'évoquer hier. Mais il y aura une obligation pour les plateformes, les diffuseurs, les multinationales comme Facebook ou Twitter, de contrôler un petit peu le contenu. Alors ce qu'elles commencent à faire, on sait que Facebook, qui a été pas mal accusé, hein, sur la campagne américaine notamment, a aujourd'hui, quand il y a des publicités qui sont payées par et qui ont un but politique, les utilisateurs à l'étranger, puisqu'en France c'est interdit les publicités politiques sur Facebook, mais aux États-Unis, au Canada par exemple, l'utilisateur peut cliquer et voir qui est à l'origine de la pub, qui a payé pour mettre la pub. Donc ça peut donner des infos. Donc voilà. Aux États-Unis, il y aurait eu à peu près officiellement 3000 messages sponsorisés par la Russie ou des amis de la Russie. Officieusement, on parle plutôt de 80 000 publications. Le truc, c'est que ça a été partagé, alors il y a des chiffres qui sortent entre 10 et 120 millions d'Américains, mais c'est pas parce que c'est partagé que les gens adhèrent à ce qui est dit dedans. Donc en fait, ces fake news, elles sont souvent mises en avant par les médias et les politiques en ce moment, en faisant croire qu'elles ont un impact important. Elles existent, mais la mesure de l'impact est très difficile pour l'instant à évaluer, et en tout cas est très mal évaluée, donc on ne sait pas du tout si elles ont un vrai impact. Donc ça, c'est déjà une question importante. Et puis on va rappeler quand même qu'en France, il y a des lois. Il y a la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui punit, je cite, la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. Alors, donc, voilà, ce texte qui est un texte vieux, mais qui est général, s'applique donc aussi à Internet. Et puis, il y a la loi, l'article L97 du Code électoral, qui a été faite assez récemment, qui punit aussi lorsqu'à l'aide de fausses nouvelles, de bruits calomnieux, de manière frauduleuse, ça change le cours de suffrage d'une élection, quoi. Même sur un bulletin de vote, ça suffit, hein. Voilà. Donc, en fait, les textes de loi, ils existent déjà. Donc, on se dit bon, pourquoi ils font ça? Alors, pourquoi il veut faire ça, Macron? D'abord, c'est à la mode. On parlait des fake news. Il a été un petit peu victime. Enfin, il a joué la victime sur les fake news pendant sa campagne. On rappelle que son site a été piraté, mais parce qu'ils avaient rien mis à jour. Hein. Enfin, bon, c'était un peu fait exprès, vraisemblablement. L'Allemagne vient de créer une nouvelle loi sur les fake news, donc elle donne un peu l'exemple. Mais au final, ça sert à quoi? Comme on a déjà des lois, ça va servir à rien. Alors si, ça montre que le gouvernement agit. Donc là, ils disent, regardez, on a fait une loi de plus, qui sert à rien, mais on a fait une loi. Ça va lutter contre la désinformation? Non, parce que un des gros désinformateurs, faut quand même le savoir, en France, c'est l'État. C'est l'État. Rappelons-nous de la plus grosse fausse information française de ces dernières années, c'est le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière française, quoi. Et c'est l'État qui le dit. C'est une fake news énorme, et il y en a tout le temps des fake news comme ça. Hein? Essayez de savoir ce que fait la France en Afrique, vous le savez pas, c'est tout est caché. En fait, on nous dit toujours des choses, et en fait, l'État, les services secrets notamment, ne révèlent rien. Et contrairement à certains pays qui, au bout d'un moment, déclassifient leurs archives secrètes, la France le fait très peu. Donc en fait, l'État est quand même pas mal pourvoyeur de fausses informations. Et les politiques encore plus, on l'a vu dans la dernière campagne, notamment avec Fillon. Et puis surtout, le gros risque, c'est que une fake news, c'est quoi? Qui c'est qui va dire que c'est vrai ou faux? Ben, c'est l'État. Donc c'est une sorte de disparition de la démocratie, c'est la République, le président, le premier ministre qui vont dire « ça c'est une fausse news ». Et on sait, la France est particulièrement forte en fausse news. J'ai parlé tout à l'heure de Tchernobyl. En nucléaire, on a eu de la fausse news pendant des années, des années. Il a fallu que des associations se créent, comme la CRIRAD, pour mesurer la radioactivité, pour montrer que les infos données par l'État étaient fausses. Hein. Et on peut citer comme ça des quantités de choses incroyables. On rappelle l'assassinat par les services secrets français d'un militant de Greenpeace sur le rameau Warrior. La France l'a fait en cachette, il a fallu du temps pour que ça sorte. Ben voilà, donc si l'État dit ça c'est vrai, ça c'est faux, je vois pas pourquoi on croirait l'État vu le passif qu'il a de manipulation derrière lui. Donc voilà, il y a un gros risque sur la disparition l'abaissement ou de la disparition de la liberté d'expression.
Oui, moi j'ajouterais aussi que, pour aller dans ton sens hein, aussi, c'est que moi ce qui m'embête un petit peu avec tout ce contrôle sur ces fausses informations, c'est que on rend service à Monsieur Zuckerberg qui aimerait bien que son réseau social, qui est aujourd'hui un réseau commercial, devienne un vrai média à part entière. Facebook, c'est un truc où les gens se causent, il faut pas oublier ça à la base, ce n'est pas un média, ce n'est pas de la presse, et le but de Monsieur Zuckerberg aujourd'hui, comme hier, hein, sa création, c'est pas différent de TF1 et de ses actionnaires, c'est de vendre des espaces publicitaires pour des cerveaux disponibles. Donc vouloir transformer Facebook en un vrai média comme Le Monde par exemple, hein, ou ben, Figaro, ben. On s'en fiche, c'est déjà un danger pour moi parce que ce n'est pas un média, donc ça m'emmerde un petit peu ce truc-là. Bon.
Le Figaro qui peut faire des fake news, ils en ont fait une belle cette semaine sur une soi-disant un truc qui justifierait, qui était en coordination avec ce que disait la Bible, ce qui s'avère pas tout à fait juste. Voilà, ça leur arrive aussi, comme quoi idéologiquement quand on a un truc qui a l'air d'aller dans son sens, et ben on le met en avant même quand on n'est pas sûr.
Oui, mais pour moi ça c'est de la propagande comme il y en a toujours eu dans les médias et dans la presse, donc le terme fake news est peut-être là-dessus un petit peu dépassé. Qui a dit, alors je vais vous aider, c'est passé de l'anglais des États-Unis d'Amérique, je vous aide beaucoup, hein, au français, sur un autre réseau commercial justement, et c'était en début de semaine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient juste de déclarer que le bouton nucléaire est constamment sur son bureau. Quelqu'un dont son régime appauvri et affamé pourrait-il l'informer que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et puissant que le sien, et mon bouton à moi fonctionne. Qui alors a dit ça?
Donald Trump.
Ouais, bravo.
Et en fait, je crois que c'est un mythe, le bouton.
C'est vachement valise, plus compliqué. Hein,
c'est une valise, mais il faut que... c'est très compliqué à mettre en œuvre. Enfin.
Bon, oui, voilà.
Ça nous rassure que ce soit compliqué. Il ne peut pas appuyer dessus comme ça en étant énervé, quoi.
Oui, oui. Bon, je vous rappelle que Monsieur Trump, c'est donc tu as bien trouvé tout de suite. Hein, j'imagine que tu n'es pas le seul parmi nos auditeurs et nos auditrices à avoir trouvé aussi. Monsieur Trump avait déjà promis, je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, de détruire totalement la Corée du Nord par le feu et la fureur. Donc, ça fait partie d'un de ces nombreux tweets hein, du début de semaine, hein, puisque Monsieur Trump passe son temps quand même à envoyer des messages sur ce réseau commercial. Il ne fait que ça, hein, sur tous les sujets, dès qu'il y en a là, et donc évidemment on a eu le droit à l'Iran, mais c'est surtout, hein, surtout. Il avait tweeté quelques temps avant, c'était quelques heures plus tôt, sur le fait que la Corée du Nord et la Corée du Sud pouvaient peut-être engager un nouveau dialogue. C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas, nous verrons. Là, il y avait de l'analyse stratégique et politique de sa part, attention, y voit loin Monsieur Trump. Bon, pendant ce temps, plus sérieusement, nous avons donc effectivement la Corée du Nord et la Corée du Sud qui tentent de se parler. Le téléphone transfrontalier, vous savez, souvent dans les films hollywoodiens...
La ligne rouge.
On appelle ça la ligne rouge. C'était le cas entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Donc on appelle ça un téléphone, sinon transfrontalier, a été remis en place. Il avait été coupé depuis 2016. Alors, j'ai relu un truc que j'avais moi carrément oublié, c'est qu'il y a un décalage horaire entre les deux Corées. Puisque l'horaire de la Corée du Sud, le fuseau horaire a été imposé au moment de la colonisation japonaise. Et donc, la Corée du Nord, pour se démarquer de cette colonisation japonaise, a décalé d'une demi-heure. Donc quand ils se...
Ah, d'une demi-heure ?
Ouais, donc quand les deux se parlent, ils se parlent avec une demi-heure, 30 minutes d'écart. J'avais carrément oublié ça et je l'ai relu dans la presse cette semaine.
Ils sont quand même cons.
Donc, voilà, je voulais vous le... Écoute, voilà, c'est la Corée du Nord. Donc il faut se souvenir que ce téléphone transfrontalier avait été établi, créé et mis en place en 1971. Donc c'est-à-dire bien après, hein, 53 et la fin du conflit armé, on va dire. dire, puisqu'il y a toujours, hein, il y a pas d'armistice entre les deux Corées. La ligne a été suspendue un certain nombre de fois, et donc la dernière fois, c'était en 2016. C'est la Corée du Nord qui avait cessé d'utiliser le téléphone transfrontalier à cause de qui ? À cause de Madame Park, qui, je vous le rappelle, était pour se foutre sur la gueule avec la Corée du Nord. Alors que Monsieur Moon, nouveau président élu en mai dernier, lui, il est favorable à des discussions, des engagements et de la diplomatie avec le Nord.
Oui, il a l'air un peu plus intelligent que sa précédente. Hein.
Ah oui, alors Madame Park, vous savez qu'elle est en procès, qu'elle a des soucis. Hein,
fille de dictateur.
Il lui arrive plein de choses hein, parallèlement. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sachez-le, il lui arrive plein de choses. Alors, il y a un événement qui pourrait permettre de continuer à discuter. Tout est l'ordre de petits symboles et des discussions. Attention, il va y avoir le 9 février prochain, en Corée du Sud, les Jeux Olympiques d'hiver. Grand moment de sponsoring et de commerce autour du sport, bien évidemment. Mais le Nord, Kim Jong-un, a proposé d'y envoyer une délégation, auquel la Corée du Sud semble plutôt favorable, il faut bien le dire. Le CIO aussi, hein. Il faut bien l'entendre. Alors, il y a deux sportifs qui sont cités comme étant des sportifs qui peuvent potentiellement aller à ces JO d'hiver.
Qui ont le niveau, tu veux dire ?
Alors, non seulement ils ont le niveau, mais ils ont été qualifiés surtout. Parce que je te rappelle que quand tu vas aux JO, c'est que tu as eu avant une compétition qui t'a permis de te qualifier. Il s'agit en fait d'un couple de patineurs. Donc, je vous rappelle que dans le patinage, les couples, ce sont un homme et une femme. Il s'agit donc de Kim Joo-sik et de Ryeom Tae-hok qui se sont qualifiés, c'était en septembre 2017, le 29 septembre 2017, si vous voulez tout savoir, et c'était en Allemagne. Donc potentiellement, ces deux patineurs peuvent aller aux JO d'hiver en Corée du Sud. Le truc, c'est que normalement, un pays doit ensuite valider l'envoi de ces sportifs. La Corée du Nord ne l'a pas fait avant la date fatidique du 30 octobre dernier, qui était la date de confirmation pour la participation de ces deux sportifs. Mais il est très très possible que le CIO envoie une invitation. Ouais. Vous savez que le CIO a le droit d'inviter des sportifs à travers le monde pour les faire venir exceptionnellement lors de ce grand rassemblement sportif et commercial, nous le disions donc. Donc il est possible que ça soit une avancée. Alors, vous allez me dire, c'est l'ordre du symbole. Tout à fait.
C'est que du symbole, mais c'est important du coup.
Mais c'est important le symbole, surtout quand deux parties avaient cessé de se parler. Et puis surtout, ce qui est très important, moi je trouve, hein, c'est l'analyse que moi j'en fais en tout cas, dans le grande analyse géopolitique que je peux vous faire ce soir, c'est qu'on est dans le cadre du symbole qui va surtout permettre à deux pays qui sont côte à côte de se parler sans l'intervention d'une agence de presse du Nord, sans les médias du Sud et sans les tweets de Monsieur Trump. Parce que quand les deux parties peuvent se parler directement sans Monsieur Trump, et ben peut-être qu'on avancera mieux, peut-être pas plus vite, mais en tout cas mieux et plus sereinement que quand on a un abruti à l'autre bout du monde qui vient vous déclarer la guerre avec son gros bouton. Voilà, donc les symboles peuvent parfois aider un petit peu dans le pays. Si le sport commercial, plus une fois, pouvait servir à quelque chose, écoutez, tant mieux.
On va parler des migrants un petit peu à travers deux infos qui concernent deux pays. On va commencer par Israël. On n'en parle pas souvent, mais là, c'est en plein dans l'actualité puisqu'ils ont une grosse politique répressive anti-migrants en Israël, qui est un pays qui a une vraie politique raciste, hein, notamment sur les migrants, mais même en général au sein du pays. Pas que avec les Palestiniens, du coup, c'est tout ça dont on veut parler. Donc c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'est félicité de la mise en place du projet qui est de d'ici la fin mars de dire à tous les migrants, soit vous vous barrez et on vous paye le voyage, soit on vous met en prison. Voilà. Alors, faut savoir qu'en Israël, officiellement, il y aurait 38 000 migrants concernés par cette mesure. Alors, ça c'est ce qui avait été annoncé au début. Ensuite, le ministre de la Sécurité publique, Gilad Erdan, a dit au premier a demandé au conseiller de la Sécurité nationale d'élaborer un plan d'expulsion. Et après, ils ont réfléchi sur ce qui allait coûter cher à l'État d'Israël, et qu'effectivement, il valait quand même mieux expulser de force. Plutôt que de les mettre en prison, ce qui a été au début, hein, dans ce que j'ai dit, c'est soit vous partez, soit on vous met en prison. Et là, il y en a qui disent, non, mais en fait, si on les met en prison, vous imaginez, ils vont être en prison à vie, hein, parce qu'ils n'ont pas de raison de sortir, sauf s'ils disent, on veut rentrer chez nous, et ça va nous coûter une fortune, les prisons sont déjà pleines en Israël, tout ça. Donc en fait, ce qui était au départ, soit vous vous barrez, soit on vous met en taule, ça va être veut dire, soit vous vous barrez, soit on vous vire de force. Voilà. Finalement, ce qui a été annoncé s'est transformé un petit peu au fil des heures. Donc voilà. Alors, actuellement, les migrants qui sont essentiellement africains, hein, qui qui viennent de deux pays, le Soudan et l'Érythrée, deux pays dont les conditions sont très très difficiles pour eux, et c'est logique qu'ils émigrent vers le pays qui semble le plus riche de la région, et ce qui est d'ailleurs pas faux. Donc ils sont arrivés en Israël. Ils ont des visas de résidence qui sont renouvelés tous les deux mois. C'est quand même difficile, Israël, quand on est migrant. Et ils n'ont aucune chance de rester en Israël, puisque c'est un pays qui n'accepte pas les étrangers sur sa terre très longtemps. Alors, ils ont signé les mêmes traités internationaux que nous, donc ils sont censés accepter les réfugiés. Des gens qui partent de leur pays parce qu'ils subissent une guerre, ils ont des risques pour leur santé, etc. Sauf qu'en fait, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, dit que, en fait, ils font tout pour pas le faire. Et ils donnent l'exemple. Depuis, en 2009, ils ont mis en place, donc officiellement, oui, on accueille les réfugiés. Ils avaient accueilli cette année-là 2 Soudanais et 8 Érythréens à qui ils ont donné le statut de réfugiés. Vous imaginez, 10 dans une année, c'est pas gagné, hein, il y en a 38 000. En fait, ils veulent pas le donner. Alors, ils avaient même triché, suite à ça, ils avaient donné à 200 ressortissants du Soudan, mais originaires du Darfour, vous savez, cette région en guerre. Ils avaient, non pas statut de réfugié, parce que ça leur met trop de contraintes, en fait. Ils avaient inventé un statut humanitaire ils appelaient ça le statut humanitaire en Israël. Ils peuvent rester le temps qu'on les expulse, quoi, en gros. C'est vraiment un pays raciste et une politique fasciste, hein. Qui est pas loin de celle de la nôtre, certes. On en parlera après. Mais bon. Donc voilà, aujourd'hui, ils ont même signé des accords avec deux pays africains, le Rwanda et l'Ouganda. Alors vous allez me dire, mais attendez, c'est des Érythréens et des Soudanais. Et ben en fait, ils vont les expulser au Rwanda ou en Ouganda, parce qu'ils peuvent pas les expulser, c'est compliqué, ils arrivent pas à signer d'accord avec l'Érythrée ou le Soudan. Donc ils vont transformer ces réfugiés qui sont là dans des réfugiés dans d'autres pays où on sait que ça va mal se passer. Enfin bon, voilà, c'est assez catastrophique. Alors il y a des réactions en Israël de la part des ONG qui s'occupent des migrants, de la part des ONG en plus général sur les droits de l'homme, qui disent que voilà, c'est tout est pipé en Israël, personne quasiment ne peut avoir le statut de réfugié, personne ne peut émigrer en Israël de toute façon naturellement, à part si vous êtes juif, hein, parce qu'il y a une vraie discrimination religieuse. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas rester en Israël, et si vous êtes réfugié, malgré tous les tests qu'Israël a signés, vous n'avez aucune chance de rester dans ce pays, il faut que vous vous barriez, quoi. En gros, c'est ça, et c'est la politique qui est mise en place par Benjamin Netanyahou et ses amis d'extrême droite. Donc voilà, il était, si on se rappelle, le dernier discours qu'il a fait, là, c'était fin août, il est allé dans le sud de Tel Aviv, un endroit où résident pas mal de migrants africains, et il s'était engagé devant les Israéliens à rendre cette partie d'Israël aux citoyens israéliens. En gros, Israël aux Israéliens, bon, ça rappelle les slogans véhiculés un peu partout dans le monde par les nationalistes et les fascistes, hein, c'est le même discours que le Front National français. Donc voilà ce qui est en train de se mettre en place. Là, ils vont expulser donc de force vraisemblablement 38 000 personnes. Et c'est vrai que et pour le coup, alors le patronat israélien s'est pas exprimé. Et pourtant, ils pourraient se positionner. Ils ont pas de courage du tout. Hein, contrairement à ce que font certaines fois le patronat français, par exemple. Parce que elle sert beaucoup, cette main d'œuvre africaine. Je veux dire, dans les restos, ceux qui font la plonge, c'est des Africains en Israël. Il y a toute une partie du travail que ne veulent pas les Israéliens qui est faite par ces vagues de migrants. Donc ils ont une utilité économique importante. Ils font d'ailleurs tourner plein de commerces. Ils ont un rôle important, mais vraisemblablement les fachos n'en veulent pas. Vous allez me dire, c'est pareil en France. Oui, d'accord. C'est un peu moins violent, mais c'est pas loin quand même. Alors, on va parler de deux directives, deux circulaires plutôt. La première circulaire, début décembre, qui a été émise par l'Agence régionale de santé de la région Sud, c'est le nouveau nom, hein, de la région PACA, qui a dit qu'il fallait que les migrants qui se retrouvent dans les hôpitaux psychiatriques soient, et quand ils sont il y a plus de besoin de mesures de soins, qu'ils soient que leur nom et là où ils sont soient transmis à la préfecture. la dénonciation un petit peu. Voilà, nous on a des migrants chez nous, on vous le dit, voilà, maintenant vous pouvez venir les chercher. En gros c'est ça. Alors ça avait fait réagir notamment le syndicat des psychiatres des hôpitaux et l'Union syndicale de la psychiatrie, qui le 29 décembre ont fait un communiqué commun en disant qu'ils ne voulaient pas être aux ordres du ministère de l'Intérieur, que ça faisait pas partie des vœux de la psychiatrie publique. Hein, effectivement, on les comprend. Donc ça a commencé à sortir dans la presse, à bouger finalement. la ministre de la Santé aurait fait pression sur l'agence de régionale de santé de PACA pour qu'elle retire sa circulaire, et elle a effectivement retiré sa circulaire. Donc les psychiatres n'auront plus l'obligation de balancer les méchants migrants qui ont des problèmes psychiatriques et qui sont dans leurs hôpitaux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors elle l'a pas fait volontairement, elle a attendu qu'il y ait des pressions pour qu'elle le fasse, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et elle a d'ailleurs tout de suite dit, c'est une initiative locale, nous n'y est pour rien. C'est ça. Il ne reste plus qu'à la croire, bien évidemment. Et alors, deuxième circulaire qui ne passe pas bien, celle de Gérard Collomb et du 12 décembre, sur la même chose que dans les centres d'hébergement d'urgence, il y ait un recensement de toutes les personnes dedans et que ce soit fourni aux préfectures, dont le but d'expulser ceux qui sont expulsables. Alors, voilà dont il est, ça dont il est question. Alors, il y a eu pas mal d'attaques. c'était prévisible, hein, ça, la circulaire elle date du 12, mais en fait dès le 8 décembre les associations qui avaient été invitées par le ministre des Territoires, là, Jacques Mézard, et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sont barrés. Il y avait la CIMAD, Médecins du Monde, Secours Catholique, Emmaüs, ils sont barrés de la réunion. C'était plus possible de discuter avec ceux qu'ils avaient en face, et effectivement la circulaire était sortie 4 jours plus tard. Alors tout le monde y va au gouvernement pour essayer de défendre Gérard Collomb et la circulaire. Donc là, hier, c'était Édouard Philippe qui, à la télé, sur France 2, a essayé de défendre cette circulaire. Il a dit que non, mais attendez, vous voyez le mal partout. Je vais le citer. Il a dit, il ne s'agit pas d'aller chercher ceux qui seraient des résidents en situation irrégulière. Il ne s'agit en aucune façon, je le dis clairement, de revenir sur le principe de l'inconditionnalité en matière d'hébergement d'urgence. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette situation d'urgence. Et vous voyez bien que si on veut fluidifier le parcours de ceux qui ont vocation à obtenir les droits d'asile, ou l'ont déjà obtenu, il faut qu'on puisse les identifier, etc., etc. En fait, oui, ils vont identifier ceux qui rentrent dans le truc de statut de réfugié et tout ça, et puis ils vont identifier les autres, et c'est donc un pur hasard s'ils vont se servir de ça pour les virer, hein. Bien évidemment, c'est une justification qui marche pas plus que les autres, en fait. C'est juste une justification pour, ils mettent en place les politiques d'extrême droite de refus des migrants et des réfugiés, comme le rêvait un peu toute l'extrême droite française. Voilà, heureusement, Gérard Collomb est là et le gouvernement Macron soutient Gérard Collomb.
Alors, je vous rappelle que depuis le 1er janvier, la Bulgarie a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Je vous rappelle aussi que le Conseil de l'Union Européenne, c'est pas la même chose que le Conseil Européen. Le Conseil Européen, vous avez en l'occurrence un bonhomme actuellement à la tête, alors que le Conseil de l'Union Européenne, vous avez un trio qui, pendant 18 mois, va porter un programme commun, en tout cas ce qui est censé le mener à bien. Donc la Bulgarie, là, a 6 mois de présidence, c'est la première fois. Ça fait 11 ans, quelque chose comme ça, que la Bulgarie est dans l'Union Européenne.
Et donc c'est la première fois qu'elle a ce poste-là.
Ouais, tout à fait.
Il faut savoir que la prochaine fois, ça va être encore mieux.
Ouais, c'est l'Autriche.
Donc là,
avant, c'était l'Estonie.
Le régime d'extrême droite autrichien va être maître de l'Europe dans 6 mois, ça va faire peur.
Pour l'instant, c'est encore une démocratie, hein. L'Autriche, hein, on en est là.
Dirigé par l'extrême droite.
Donc la Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre de l'Union Européenne, et pour l'organisation Transparency International, la Bulgarie est le pays où le niveau perçu de corruption est le plus élevé de l'Union Européenne.
Il y a du boulot.
Aïe, 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 aïe. Alors, il faut savoir que il y a un rapport de la Commission européenne de janvier dernier qui a constaté que la lutte contre la corruption est le domaine dans lequel le moins de progrès a été réalisé en Bulgarie, je cite, depuis 10 ans. Donc, on peut dire que, globalement, la corruption en Bulgarie se porte plutôt très, très bien. Et c'est bien malheureux, puisque l'Union européenne avait demandé à la Bulgarie de faire des efforts avant d'avoir cette présidence.
Il faut quand même voir que, souvent, l'adhésion à l'Union européenne entraîne des contraintes et fait baisser la corruption. C'est un des aspects très positifs quand même de ces adhésions.
Oui.
Mais là, non.
Mais là, on va douter, parce que j'ai lu, par exemple, dans un article du Monde.fr, cette phrase. Peut-être que la mission qui lui est désormais confiée de présider l'UE pour 6 mois l'incitera à devenir plus vertueuse. Moi, j'en doute, ça me fait marrer. Il faut savoir qu'il y a donc un président qui s'appelle M. Radef, actuellement, qui a décidé de mettre son veto à un projet de loi, une loi anti-corruption. Alors, certes, c'est un projet qui pourrait être amélioré, qui était un petit peu faiblard, bien sûr, mais quand même, de mettre son veto, ça la fout mal, quand même, hein, c'est ce qu'il a fait mardi, Monsieur Radef. C'était le Parlement avait voté cette loi le 20 décembre dernier, donc déjà, on avançait, vous voyez, juste avant la prise de la présidence par la Bulgarie, et puis, paf, lui, il arrive et clac, il met son veto. Alors bon, en fait, très sincèrement, son veto va pas servir à grand chose, puisque là, il faut que ça repasse devant le Parlement qui va réexaminer, excusez-moi, la loi, mais sans obligation de faire des modifications. Donc ça veut dire que ça peut être « Oh, notre texte, il est joli !» Et puis, hop, là, le président ne pourra plus s'opposer une deuxième fois, et donc le texte va être validé. Mais c'est quand même, ça la fout mal quand même, d'avoir un président qui s'oppose à une loi anti-corruption, alors que vous venez de prendre quand même un poste un peu important au sein de l'Union européenne. Alors l'idée de cette loi anti-corruption, c'était de un peu comme chez nous, finalement, de mieux contrôler les personnalités politiques, leurs revenus et évidemment les conflits d'intérêts au niveau des politiques et des entreprises, d'amener du contrôle et de la surveillance des organisations chargées de faire respecter la loi. Donc c'est, ça démarrait, si vous voulez, c'était plutôt une bonne chose d'aller sans sens. Bon, là, c'est mal barré, mais enfin, il faut rappeler qu'en Bulgarie aussi, il y a quelques problèmes avec la presse. Il y a la corruption amène tellement de problématiques qu'aujourd'hui, dans la presse publique, dans les médias publics, on a du mal à parler de ces affaires de corruption et des affaires financières assez importantes en Bulgarie. Et puis, la presse privée appartient, les médias privés, à un groupe. Ce qui fait qu'il y a peu de diversité dans les médias et peu de paroles. Et donc, on a une presse qui est assez peu libre, des journalistes qui ont peu le choix quand même dans leur sujet, il faut bien le dire. Donc la Bulgarie a encore du boulot quand même pour sa liberté.
Ouais, si vous avez l'occasion de voir un film qui s'appelle Taxi Sofia, ça donne une image assez négative de la Bulgarie. Un film
de Sofia.
De Sofia, ouais.
Pas tant de la Bulgarie que de Sofia et de la capitale.
Un film très bien, mais voilà, qui donne une image négative. Je pense que ça va sortir d'ici quelques semaines
C'est pas tant qu'une image négative que brutale. Ouais. Et la brutalité amène parfois un petit peu des réactions de négativité.
Du coup, on n'a plus envie d'aller à Sofia, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça calme un petit peu. Je vais essayer de faire rapide. Je voudrais vous parler du Venezuela, en tout cas revenir sur certaines choses. Alors, on a appris que Monsieur Maduro avait toujours des idées. Donc, vous le savez que le Venezuela est encore déclaré en défaut de paiement. 35 millions de dettes de dollars de dettes souveraines, record mondial de l'inflation. Le FMI prévoit une inflation non de 2300% en 2018. Pas mal. Bon, c'est le FMI, on a le droit de le critiquer, mais enfin, quand même.
Ouais, mais les calculs sont à peu près justes, hein, donc c'est assez catastrophique.
C'est catastrophique. Et donc, le gouvernement vient de décider d'augmenter de 40% le salaire minimum. C'est pas la première fois qu'il y a une telle annonce, mais il faut le savoir, ça ne va rien changer. Ça ne va pas permettre au Venezuela, aux travailleurs et aux travailleuses de mieux bouffer, de plus acheter de choses. C'est toute une entreprise, toute une économie qui s'est effondrée. Et là, il faut arriver à juguler le processus d'inflation. Et cela, c'est bien compliqué maintenant. Alors, il y a eu cette affaire quand même qui a amené des gens un petit peu dans la rue, cette affaire de jambon. Puisqu'il y a le pernil de saldo, je le dis très très mal. Globalement, c'est un rôti de jambon.
Oui, en fait, c'est un rôti de porc. C'est pas vraiment du jambon. Ouais, mais non, ils appellent ça jambon, mais c'est un rôti de porc.
Ça me fait penser un peu au jambon vendéen, si ça vous dit quelque chose, dans l'idée. C'est un jambon à l'os, mais ça me fait vraiment penser à ce qu'on trouve dans certaines régions françaises.
Donc, c'est le mets traditionnel de Noël.
De Noël. Et c'est vrai qu'au Venezuela, les consommateurs et les consommatrices avaient espéré que ça serait un produit qui serait subventionné et que donc les familles allaient pouvoir l'acheter et le mettre sur la table de Noël. Manque de bol, ça s'est pas passé. Alors,
pourtant, il l'avait promis, Maduro.
Oui, il l'avait promis, c'est bien ça, c'est bien pour ça que ça a agacé un petit peu la population. Il faut savoir que du coup, c'est la Colombie qui a envoyé des tonnes de porc, de jambon au Venezuela. Et puis, il y a derrière, alors on pourrait en rire de cette affaire, sauf que derrière, il y a une affaire diplomatique avec le Portugal, ouais. Parce que M. Maduro est allé accuser...
Le Portugal.
Le Portugal. Quand on dit le Portugal, c'est les politiques du Portugal, c'est-à-dire les hommes et les femmes politiques du Portugal, d'avoir mis un complot en place pour empêcher le jambon de traverser l'océan pour arriver au Venezuela.
Il est pas mal complotiste, le père Maduro. Et en fait, ce qui se passe, c'est pas l'État qui vend des jambons au Venezuela, c'est les producteurs de porc, les paysans portugais qui vendent, ou les multinationales qu'il y a là-bas, hein, et qui veulent plus vendre, parce qu'ils n'ont jamais été payés quand ils ont vendu. Donc, sur les dernières années.
C'est ce qu'est le gouvernement portugais a répondu. Mais nous, on n'y est pour rien. On est dans une situation libérale. Il y a une économie de marché et les exportations sont du ressort des entreprises. Nous n'avons pas bloqué l'envoi du jambon au Venezuela. Mais alors, monsieur Maduro est donc parlé d'un boycott international.
Il est énorme quand même. Il transforme son incompétence complot international souvent porté par les États-Unis d'Amérique. Alors on sait qu'il y a de l'intervention nord-américain bien évidemment, mais c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'il a incompétence, qu'il met une politique pourrie, c'est que les militaires au Venezuela ont les principaux postes, hein, dans le gouvernement, ils tiennent aussi l'économie, et qu'il y a un souci, quoi. Et c'est tout sauf une démocratie, quoi qu'il en dise le père Maduro. Et c'est pas la droite qui est responsable de ça, c'est bien lui, c'est bien Chavez avant qui a installé ses potes militaire, parce que c'est un militaire aussi. Voilà, la situation, elle est critique depuis de nombreuses années, et lui, il est l'héritier de toutes les magouilles précédentes.
Donc, monsieur Maduro a aussi annoncé la création d'une devise cryptographique, parce qu'il essaye, du coup, il faut rappeler que le bolivar, ça vaut plus rien, hein, ça s'est cassé 12 fois la gueule. Voilà, il a créé de la monnaie aussi, hein, il a fait sortir du papier, hein, la planche elle a fonctionné, comme on dit. Je suis en train de chercher le pétro, ça s'appelle. C'est donc une valeur, ça va avoir la valeur d'un baril de pétrole. Oui, comme tu dis.
Mais il faut une monnaie. Il faut que ça repose. Avant, les monnaies reposaient sur un vrai système financier. C'était de l'or en général. Donc eux, ils ont que du pétrole. Et c'est assez logique finalement qu'ils la posent sur ce que produit le Venezuela. C'est une des raisons d'ailleurs de la crise du Venezuela, c'est que quand les cours se sont écroulés du pétrole, ils ont plus les moyens de financer tout ce qu'ils finançaient sans réfléchir, hein, parce qu'ils ont fait n'importe quoi et ils ont pris l'argent du pétrole pour le donner de manière. Alors certes, ça a réduit la pauvreté pendant un certain temps, mais quand le pétrole s'est écroulé, la pauvreté elle a explosé, ils en ont pris plein la gueule. Du coup, c'était une politique à court terme inintelligente au possible, mais c'est une politique populiste que véhiculait le parti de Chavez et maintenant de Maduro.
Alors, l'idée, c'est de contrer le blocus des États-Unis d'Amérique. Vous savez qu'il y a un blocus financier. Donc, l'idée, c'est de contourner ça avec une crypto-monnaie, comme on dit. La grande question, c'est quand même aujourd'hui, c'est quoi le stock du pétrole au Venezuela? Parce que ça, c'est des chiffres qu'on connaît pas. Donc, c'est une grande interrogation.
A priori, c'est quand même, il y a quand même de grosses réserves.
Eh ben, ouais, mais en même temps, c'est aussi, on les connaît pas. Hein, les chiffres sont pas très clairs. Donc, l'idée, c'est de contourner la pénurie de dollars, la dégringolade du bolivar et le blocus des États-Unis d'Amérique et de se remettre sur le marché. Je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas la seule a priori, mais bon. On leur souhaite du courage avec ce pétro, donc.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Maduro, qui est critiquable sur beaucoup, beaucoup de choses, les gens qu'il a en face de lui sont pas mieux que lui, hein.
Non. Alors, il va y avoir des élections, hein, en 2018.
C'est bien merdique, quand même, le système.
Au Venezuela. C'est ça le problème, c'est que, monsieur Maduro, en face de lui, des gens pas très sensés non plus, des adversaires, il en a écarté, hein, un certain nombre, il faut se souvenir, hein, monsieur Maduro. Alors là, pour Noël, il y a eu des opposants qui ont été libérés, dont certains qui sont des opposants potentiels, hein, à la course pour les élections, mais d'autres ont déjà été écartés, certains sont encore en résidence, assignés à résidence. Donc le problème, c'est ça, c'est que pour l'instant, politiquement, qui pourrait prendre la place de M. Maduro dans le cadre d'une démocratie, c'est pas simple. Je vous rappelle qu'il y a eu des morts, hein, au Venezuela, à chaque fois que des gens descendent dans la rue, il y a des morts.
Lui, du coup, il véhicule un système soi-disant classé à gauche, mais autoritaire au possible, liberticide au maximum. Et en face de lui, il a une droite libérale qui est tout aussi autoritaire et tout aussi liberticide. Il manque un vrai parti de gauche avec des idées de gauche qui soient pas tenues par des militaires ou par une dérive autoritaire comme c'est le cas. Voilà, Chavez, c'est un militaire, donc il fallait pas s'attendre que ce soit un grand démocrate non plus.
Oui, surtout qu'il y a l'Assemblée nationale a approuvé un décret qui prive de statut politique les partis qui ont boycotté les élections municipales du 10 décembre.
Ouais, c'est beau la démocratie.
Ça veut dire que déjà on est mal barré pour
ces
prochaines élections.
T'as même plus le droit de boycotter, quoi.
Voilà. Ouais. Déjà, il y a un problème vraiment démocratique de base au Venezuela, au-delà de la problématique économique. C'est un pays qui est quand même en danger depuis déjà un certain nombre de temps maintenant.
On va continuer un petit peu, puisqu'il nous reste, enfin, il est 20h02, mais
l'émission... Tant que nos amis de la petite cuillère de papillon ne sont pas là, nous pouvons parler.
Alors, je vais faire ma blague turque.
Parce que... Bah, tant pis, je vais quitter la pièce.
Dans le truc, ça s'appelait humour turc. Non, c'est une vraie... Bah, moi, je prends ça pour de l'humour. Alors, peut-être que ça l'était pas, mais c'est en fait le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan, donc le président bientôt dictateur de la Turquie. Il s'appelle Ibrahim Kalin, qui a dit qu'en fait Macron était mal informé sur la liberté de la presse en Turquie. Donc il y avait de la liberté de la presse en Turquie et que Macron était mal informé. Donc moi quand j'entends ça, je me dis, bon c'est pas sérieux, parce qu'on sait ce qui se passe. Donc c'est de l'humour, c'est peut-être une blague, et j'ai pas l'humour turc, parce que j'ai pas compris sa blague. Moi je trouve ça insultant de se dire ça, mais bon voilà, je l'ai pris pour un trait d'humour. Vous me direz, c'est pas un trait d'humour, bien évidemment, c'était ma fausse blague turque. N'empêche que demain, Recep Tayyip Erdogan est invité par Monsieur Emmanuel Macron à Paris, donc ils vont discuter, que Macron fait semblant de dire qu'il va parler de l'atteinte à la liberté de la presse en Turquie, et du coup... Avant cette visite, aujourd'hui, Ibrahim Kalin a rappelé qu'en fait, il faut pas tout confondre, qu'il n'y avait pas de vrais journalistes emprisonnés en Turquie, qu'il y avait des terroristes qui étaient emprisonnés en Turquie, et que tous ceux qualifiés de journalistes, c'était des gens qui étaient en lien avec les trois organisations classées terroristes par la Turquie, c'est-à-dire le Parti des Travailleurs, donc ceux qui sont proches des Kurdes, le PKK, le groupe État islamique, hein, l'extrême droite religieuse musulmane du coin, et de partout, et le réseau du prédicateur Fethullah Gulen, hein, groupe de droite traditionnaliste assez proche des idées de Erdogan, mais en guerre idéologique contre Erdogan, en guerre de pouvoir, on va dire, contre Erdogan. Donc voilà. Et donc, bien évidemment, il a dit c'est pas des journalistes, c'est des terroristes, hein, ceux qui sont en prison. Et c'est peut-être, il a pas osé le dire, mais c'est peut-être par hasard que deux journalistes français ont été arrêtés ces derniers temps. On rappelle Lou Bureau, il a fait 50 jours de tôle, soi-disant parce qu'il appartenait à une organisation terroriste, parce qu'il faisait un reportage en fait sur les Kurdes. Et Mathias Depardon, qui lui a été en Turquie, en prison turque pendant un mois, pour propagande terroriste. Et pareil, je crois qu'il fait un truc sur les Kurdes. Voilà, ils ont été tous les deux libérés suite à différentes pressions, d'abord des ONG et ensuite de la France. Mais bon, il en reste beaucoup d'autres, hein, parce que je vais vous redonner le bilan. Depuis la tentative de coup d'État de 2016, 214 médias ont été fermés, plus de 200 journalistes ont été interpellés, et plus d'une centaine sont toujours en prison. Alors soit c'est tous des terroristes, soit il suffit d'être résistant, d'être militant ou de pas véhiculer la propagande de l'AKP, le parti au pouvoir, c'est-à-dire que ce régime anti-laïque, ultra-religieux que propose l'AKP, et ben vous êtes d'office un terroriste. Du coup, l'opposition politique devient des terroristes, et on en est là en Turquie. Donc c'était pas une blague, mais c'était quand même pas drôle du tout, et on peut que le prendre au second degré, parce qu'au premier degré c'est bien sûr un énorme mensonge qu'a dit monsieur Ibrahim Kalin. Non, les journalistes emprisonnés ne sont pas des terroristes, ce sont bien essentiellement des journalistes, mais vraisemblablement la Turquie est un pays de moins en moins démocratique. Et d'ailleurs, ils ont fait une grosse chute, oui, dans le classement international de Reporters sans frontières. Ils n'étaient pas déjà très haut classés, parce que ils ont une longue tradition, même à des périodes où le système était plus démocratique, même avant l'arrivée de l'AKP au pouvoir, il y avait déjà ces tentations liberticides sur la presse.
On va partir en Inde et on va parler de... Vous aurez compris qu'en 2018, nous n'aurons toujours pas un déroulé stable. Hein, dans cette saison 2017-2018, c'est toujours un petit peu du grand n'importe quoi. Donc on part en Inde cette fois et nous allons parler d'une grève de plus de 300 000 médecins. C'était mardi, qui a touché toute l'Inde, hein, il faut le savoir. En particulier dans les établissements privés, c'est beaucoup, hein, parce que les médecins sont, d'après les chiffres que j'ai pu trouver, 840 000 en Inde, donc ça fait quand même sur 300 000. Pas une grosse partie quand même qui s'est arrêtée de travailler.
Ils ont une bonne raison
Oui, ces médecins protestent contre un projet de loi du gouvernement qui est en discussion actuellement à la Chambre basse. C'est un projet de loi qui permettrait aux guérisseurs, ce qu'on appelle aussi aux médecins dits traditionnels, ouais, de prescrire des médicaments allopathiques alors qu'ils n'ont pas de formation. Rappelons-le, donc c'est l'association médicale indienne qui dénonce ce projet de loi. Alors le gouvernement a tenté de calmer le mouvement en disant que, bon, y aller de retour, y avoir débat, discussion et négociation à l'Assemblée avant le vote. Alors, la démarche du gouvernement, c'est quoi ? C'est d'abord d'avoir ce projet de loi pour augmenter le nombre de médecins pouvant prescrire un certain nombre de médicaments, puisque il n'y a pas assez de médecins en Inde. Je vous disais 840 000 médecins.
Du coup, on prend n'importe quel charlatan guérisseur et on lui donne le droit de faire des ordonnances, quoi.
Donc 840 000 médecins pour 1674 habitants, l'OMS recommande 1 pour 1000. Donc on est très loin du nombre suffisant de médecins. Mais il y a aussi derrière, je vous rappelle, des nationalistes hindous au pouvoir qui aimeraient bien que les pratiques dites ancestrales soient reconnues officiellement et considérées comme scientifiques, hein, de fait. Bon, moi je veux bien vous accorder qu'un certain nombre de médecins en France sont davantage des techniciens que des scientifiques, hein, c'est aussi des praticiens. Mais bon, là quand même, c'était pousser un petit peu le bouchon, a priori, un peu loin pour l'association médicale indienne. Il y a beaucoup hein, de guérisseurs en Inde. Il y en a autant que les médecins, pratiquement. Même un peu plus, selon les chiffres. Mais M. Modi, donc le Premier ministre indien, lui, veut vraiment mettre en avant ses thérapies traditionnelles indiennes. Il y a un ministère spécifique hein, pour cette médecine traditionnelle, j'y mets les guillemets. Je vous rappelle que l'Inde et son Premier ministre ont vanté la journée mondiale du yoga aux Nations Unies. Le yoga, c'est super. Hein, ce qui est toujours embêtant, c'est tout le côté blabla qu'on va y mettre autour pour vous faire pratiquer une activité. Voilà, donc il y a ce mouvement quand même assez important qui rejoint aussi... Il faut savoir qu'en Inde, il y a un gros mouvement rationaliste et ça se... Pour certains médecins, ça se rapproche aussi de ces mouvements rationalistes, c'est-à-dire rappeler qu'il y a des gens qui ont fait aussi des études, qui peuvent prescrire ou pas un certain nombre de médicaments et accompagner les malades face à certaines maladies. J'en entends certains et certaines d'entre vous qui vont me dire « Oui, mais il y a des choses avec les plantes qui peuvent soigner. » Je vous entends. Alors d'abord, les études scientifiques sur les plantes, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, les observations populaires, ça reste pas de la science. Ici, on le dit tout le temps et on le redira demain.
Là, c'est même pas l'idée de reconnaître ces charlatans ou ces médecins traditionnels, on les appelle comme on veut, mais c'est de leur donner le droit de donner des médicaments allopathiques, c'est-à-dire avec des molécules actives. Mais pour savoir les conséquences que peuvent avoir un médicament sur la santé avec une substance active, il faut savoir comment sont constituées les cellules, quelles interactions il peut y avoir. Toutes les études de médecine, ça dure un certain nombre d'années, ces connaissances-là, ils les ont pas du tout. Ils ont une connaissance juste de leur pratique, là, qui est une action extérieure, mais sans connaître le fonctionnement à l'intérieur des cellules. Ça paraît pas jouable du tout. Enfin, c'est même presque dangereux pour les populations.
C'est surtout que ça rejoint toutes les pratiques de Monsieur Modi, qui aujourd'hui a quand même cet hindouisme qu'il fait avancer et qu'il fait diriger le pays avec parfois un petit peu des dérives quand même. Il faut le dire, à la fois nationaliste, religieuse quand même très très importante, hein, qui amène quand même le pays vraiment à dévier. Juste pour terminer, pour vous raconter sur l'Inde qu'il y a même il y a eu des affrontements et des grosses manifestations avec des blocages hier mercredi. Mercredi, à Bombay, la ville avait été déclarée ville morte. Alors ce sont les Dalits, vous savez, ceux et celles qu'on appelait avant les intouchables. Donc c'est... normalement, il n'y a plus censé y avoir de caste en Inde.
Mais il y en a toujours.
Voilà. 200 millions hein, de Dalits quand même en Inde. Donc ils et elles sont descendus hier dans la rue, ont bloqué les transports de Bombay. Les écoles et les commerces ont été touchés. Alors qu'est-ce que les Dalits dénonçaient des violences qui ont lieu lundi. Dans le cadre d'une commémoration du 200e anniversaire de la bataille de Bhima Koreagond, je le dis pas bien, je m'en excuse, il faut savoir que c'est une bataille qui a eu lieu en 1818 et qui était menée par la compagnie britannique des Indes orientales. Il va falloir que vous vous accrochiez quand même jusqu'au bout. Cette compagnie britannique des Indes orientales en 1818 fait une bataille et c'est les Mahars qui font partie des Dalits s'étaient associés aux Anglais. Et donc aujourd'hui, les Dalits commémore cette bataille, mais ça plaît pas à tout le monde, et donc du coup ils se sont fait tomber dessus lundi assez violemment hein, quand même, il faut le savoir. Donc il y a eu des affrontements, mais mercredi du coup face à cette violence que les Dalí ont subie, bah la police a arrêté aussi des gens. Enfin vous voyez, c'est un petit peu un mouvement qui fait domino. Voilà, je voulais juste vous dire qu'il y avait eu aussi ces actions et ce problème. L'Inde est un pays extrêmement vaste dans lequel il est vrai qu'entre les communautés religieuses, les communautés tout court et les castes, c'est très très compliqué et que parfois ça prend des allures extrêmement importantes quand il y a des répressions et quand il y a des affrontements entre les différents groupes.
Alors pour terminer ce premier Canyon Info de l'année 2018, quelques petites infos nucléaires en bref. Alors j'ai une autre blague aussi. Il y a des bruits qui courent que Areva NP va changer de nom. Donc Areva NP, c'est la branche nucléaire d'Areva qui a été officiellement repris depuis le 1er janvier par EDF. Hein, ça a coûté 5 milliards à l'État, hein, qui a mis de l'argent, enfin nos impôts là qu'on a payé à Areva NP. Et ils cherchent un nom. Alors au début c'était New Areva, c'est le nom générique pour l'instant. Et il y en a qui disent, oh ben non, ben ce serait peut-être Framatome.
Et je lui dis, j'ai lu cette rumeur là aussi.
Ah mais c'est une blague là. Framatome, c'est l'ancien nom d'Areva. Hein, quand ça s'appelait Framatome avant. Et ils veulent remettre ce nom là parce qu'il paraît que c'est positif, Framatome. Et ça avait moins marqué. Alors, c'était tout aussi pourri qu'Areva. Hein, parce que le nucléaire, ça a toujours été un peu pourri, un peu caché, un peu en dehors de la démocratie, tout ça. Et ben voilà. Et donc il y en a qui planchent et qui disent, ouais, il faudrait rappeler ça Framatome. La réponse dans quelques semaines, on aura le vrai nom de cette filiale d'EDF, l'ancien Areva. Alors peut-être que ça sera le retour de Framatome.
Mais tu crois pas que c'est pour faire oublier plutôt le mot Areva qui quand même sonne maintenant catastrophe
Ouais, parce que je pense que la mémoire populaire est à court terme, du coup on se rappelle pas Framatome.
Ben non.
Le nom reste parce que c'était une grosse entreprise qui marchait, tout ça. Ils ont fait plein de trucs foireux, hein, bien évidemment. Mais non, du coup c'est peut-être ça. Il y a peut-être une chance que ça s'appelle Areva, ça nous fera bien rire.
Framatome.
Framatome. Bon bref, quelques nouvelles sur l'EPR, l'EPR que construit du coup Framatome, enfin non EDF, non, enfin non Areva, enfin bon, tous ensemble. Donc il y en a en construction en Chine, et il devait démarrer très bientôt, hein, puisque normalement au second semestre 2017, ah mince, c'est passé, Taishan 1 devait démarrer, donc le premier EPR, donc le soi-disant le réacteur de nouvelle génération d'Areva. Et puis bon, ben évidemment, il a pas démarré, hein, ils sont pas prêts du tout. Donc c'est repoussé encore à des dates ultérieures, on sait pas trop quand, peut-être dans l'année. Et bon, ça marche pas bien, le PR, ils arrivent pas. Alors, en France, il y a toujours Flamanville, hein, qui est en cours de construction. Alors ça va pas bien mieux. A priori, ils annonceraient un démarrage pour le quatrième trimestre de cette année, 2018. Donc ce sera peut-être ce sera peut-être pour cette fin d'année que le PR va commencer. Et quand le PR se met en route, normalement, on doit arrêter Fessenheim. Donc on verra ce qui va se passer. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties sur la fermeture, la transformation de Fessenheim, etc. Mais bon, il faut attendre le démarrage de Flamanville. Et bon, c'est pareil pour la Finlande, hein, le fameux réacteur EPR en construction qui doit battre les records de longévité, enfin de durée des travaux et de surcoût, hein, qui bon, le celui de France, il est déjà pas mal en surcoût. Je crois qu'on est à 3 fois le prix annoncé au départ. Donc c'est comme si vous commandiez votre iPhone à 1 000 euros puis qu'on vous le fait payer 3 000 euros. D'un coup, comme ça, quand il arrive. C'est quand même soit du vol, soit de l'escroquerie, soit de l'incompétence. Vous choisirez le mot. Peut-être que c'est les trois à la fois.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit peu du pourcentage de chaque. Hein.
En tout cas, ça coûte très cher. Et en Finlande, il est annoncé pour une mise en service en mai 2019, normalement. Et puis, il y en a deux qui sont en projet de construction. Ça a été signé à Hinkley Point, en Angleterre. Voilà, il y aura quelques EPR dans le monde. C'est pas beau, hein, quand même, le nucléaire. Ça, non seulement, ça coûte une fortune, non seulement, on sait pas quoi faire des déchets, enfin, tous les trucs négatifs, mais en plus, on a l'impression qu'ils maîtrisent pas du tout ce qu'ils fabriquent. Et c'est pas une impression. Parce que, effectivement, quand Apple sort un iPhone, ils disent qu'il sort à telle date, au pire, ils ont 15 jours de décalage, quoi. Enfin, ils y arrivent, techniquement, à sortir, et ça marche à peu près, le truc qui sort, quoi. Ça téléphone, quoi. Hein. Bon, là, le réacteur, ils ont des années de retard, ça coûte 3 fois plus cher. Bon, on espère quand même pour eux que ça pètera pas tout de suite, quand même.
Moi, je vais mettre un bémol. On se souviendra des premières tablettes graphiques de Apple qui étaient sorties avec de gros, gros, gros défauts, mais parce que c'était la course à l'entreprise, la multinationale, qui sortirait
c'était nouveau.
Sa tablette avant de
Des réacteurs nucléaires, on en construit depuis des années. Voilà. Et une grosse mauvaise nouvelle, c'était suite à une visite de Poutine qui avait reçu Omar el-Béchir. Donc c'était l'inverse, hein, c'est Poutine qui avait reçu donc Omar el-Béchir, donc le président, on va dire, le leader du Soudan. Ils avaient signé un accord du nucléaire civil. Alors ils voulaient signer. Alors Omar el-Béchir a besoin de thunes, donc il avait dit qu'il était prêt à prendre la protection de la Russie contre les États-Unis méchants et agressifs, qu'il était prêt à accueillir une base militaire russe, etc. Bon, pour l'instant les Russes ont rien à faire de mettre une base militaire au Soudan a priori. Mais par contre ils ont signé un accord sur le nucléaire et la Russie donc vient de signer officiellement l'accord pour la construction d'une centrale nucléaire au Soudan. Vous imaginez un pays aussi peu stable que le Soudan, on va construire une centrale nucléaire là-bas. Alors c'est un intérêt pour Rosatom, c'est que ça crée une dépendance pour le Soudan, parce que le Soudan est incapable de gérer une centrale nucléaire, est incapable de gérer les déchets, est incapable de gérer, de créer de l'uranium enrichi, etc. Donc en fait, ça fait rentrer le Soudan comme étant sous influence russe et donc de Rosatom, parce qu'ils peuvent rien faire tout seuls, ils savent pas faire. Hein, je sais pas si un jour ils sauront faire. Voilà, donc c'est une triste nouvelle d'implanter une nouvelle centrale nucléaire dans un pays aussi peu stable. Tout pour des raisons d'énergie, mais en fait ils ont plein de moyens d'avoir de l'énergie au Soudan. Sauf que voilà, c'est un accord qui est avant tout politique et stratégique, voire peut-être pour aussi, on ne sait pas, mais pour récupérer du plutonium, hein, parce qu'on sait que c'est grâce aux centrales nucléaires civiles qu'on fabrique du plutonium. Hein, c'est grâce à la centrale construite par la France en Israël qu'Israël a pu avoir la bombe atomique, etc., etc. On a moult exemples pour fabriquer du plutonium pour faire des bombes. De toute façon, il faut une centrale nucléaire, hein, il faut un réacteur. Donc, voilà. Tous les réacteurs neufs ne se transforment pas en fournisseurs de plutonium, mais potentiellement si. Donc voilà, cette dernière info de ce premier Canu Info de l'année. On est le 4 janvier 2018, il est 20h18 et on s'arrête là.
Oui, pour dire que Taxi Sophia, c'est un film de Stéphane Komandareff. Voilà, si vous cherchez à voir ce film.
Il joue plus au cinéma.
Il ne me semble pas aller sur lui ou non.
Mais comme c'était il y a 5-6 mois.
Non, c'était il y a 3-4 mois.
Bon, ouais. Ça devrait bientôt être disponible.
De partout.
En VOD, en téléchargement.
De partout.
On va l'être partout. Un très beau film, n'empêche. Hein, même si c'est triste de voir.
Il est toujours bien de regarder le cinéma qui vient du monde entier.
Oui.
On n'est pas obligé toujours de regarder du cinéma hollywoodien.
Ah bon?
Du Bollywood non plus, parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on en trouve? Parfois c'est rigolo, mais c'est quand même souvent très naze. Mais voilà, du coup, c'est aussi bien de voir du cinéma bulgare, un petit peu de partout du monde, c'est toujours intéressant.
Donc voilà, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h, pour le prochain Canu Info du jeudi. Peut-être demain, je pense, pour le Canu Info du vendredi à 19h. Et puis on vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne année encore.
Bah ouais, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bye bye.